France Inter.
Bonjour à tous, à la une de ce 13h, 9 morts à Vancouver au Canada, percutés par une voiture qui a foncé sur la foule. Le conducteur est interpellé, la police exclut un acte terroriste. En France, les recherches toujours en cours pour retrouver l'homme qui a tué un musulman de plusieurs dizaines de coups de couteau à la mosquée de la Grand Combe dans le Gard. Nous irons en Ukraine voir comment la population réagit aux propos de Donald Trump qui semblait hier se désolidariser de la stratégie de Vladimir Poutine. En cyclisme, nous irons sur la Doyenne, Liège-Bastogne-Liège. La course est partie à 10h15 ce matin. Et puis gros plan en fin de journal sur l'IO. Une nouvelle génération la découvre en icône du féminisme depuis la sortie il y a un mois sur Netflix d'un documentaire sur Bertrand Cantat. Et puis le temps de ce samedi, de ce dimanche, Magali Rochereau, le ciel va rester instable sur le sud.
Oui Eric, mais aussi des températures en hausse cet après-midi et pour les prochains jours.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Nous sommes tous en deuil. Quelques mots de réconfort ce matin du Premier ministre canadien Mark Carney. Depuis qu'un automobiliste a foncé dans la foule réunie à Vancouver hier soir à l'occasion d'un festival de rue, il était 20h localement. Il y a 9 morts. Bonjour Noé Pignède.
Bonjour.
Le conducteur a donc été interpellé et la police canadienne exclut pour l'instant un acte terroriste.
Oui, les autorités canadiennes parlent d'un suspect isolé âgé de 30 ans.
Cet homme a été arrêté sur place par la foule et la foule a immédiatement appelé la police. Nous avons alors pris en charge l'homme et il est actuellement en garde à vue.
Le suspect était déjà connu des services de police, mais pour l'heure, les enquêteurs ne donnent aucune précision sur les faits qui lui ont été reprochés dans le passé. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit son SUV noir, de la fumée et la panique tout autour. Il a foncé sur une foule très dense pendant plusieurs dizaines de mètres. Des témoins sur place au moment du drame racontent avoir vu des enfants blessés et des corps écrasés par le véhicule. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour venir en aide aux nombreuses victimes de la communauté philippine qui organisait ce festival. Le drame survient un an après la condamnation à la prison à vie d'un suprémaciste canadien pour une attaque à la voiture bélier contre une famille musulmane. Sur X, vous le disiez, le Premier ministre canadien Mark Carney dit s'associer au deuil des familles de victimes.
Noé Pignède, rédaction internationale. Et en cette veille d'élection législative au Canada, le Premier ministre en campagne électorale devait se rendre aujourd'hui en meeting dans cette province de Colombie-Britannique. Son concurrent de gauche, Jagmeet Singh, se trouvait d'ailleurs sur les lieux du festival, peu avant le drame. Élection fédérale, donc demain au Canada, il s'agira d'élire de nouveaux députés, avec à la clé un possible changement de gouvernement. Une élection canadienne à l'ombre de Donald Trump, qui a lancé une guerre commerciale et qui menace d'annexer le pays. La nouvelle politique commerciale des États-Unis commence d'ailleurs à se faire sentir au Canada. Exemple, dans la ville de Windsor, c'est au sud-ouest de l'Ontario, située juste en face de la ville américaine de Détroit. Windsor dépend très fortement de son industrie automobile. Reportage de notre envoyé spécial Étienne Monin.
Louise Jan dirige une entreprise qui fabrique notamment des pièces pour l'industrie automobile. L'entreprise vend presque exclusivement aux États-Unis, mais depuis Trump, c'est marée basse.
On reçoit moins de 50% des commandes qu'on a habituellement. Donc on n'a pas besoin de tout le monde pour travailler ici, parce qu'on n'a pas les commandes. Donc, en ce moment, au moins 20% du personnel est au chômage technique. Et on espère que ça va se résoudre tôt ou tard pour retourner au travail.
À quelques kilomètres de là, dans son petit pavillon, Paul Lachance a aussi fait les frais de cette guerre commerciale. Il est chef d'équipe chez Stellantis. Il a fait 15 jours de chômage technique début avril. L'onde de choc, dit-il, se propage dans la ville.
On travaille pas pour deux semaines. Il y a plusieurs usines alentour qui ne travaillent pas pour deux semaines. Il ralentit beaucoup l'économie. Même mon fils, il regarde pour l'emploi. Personne ne va engager maintenant parce qu'on n'est pas certain qu'est-ce qui va arriver dans le futur.
Avec la politique de Donald Trump, l'économie ralentit à Windsor, essentiellement à cause de l'incertitude qui gèle l'investissement et des taxes qui sont maintenant imposées des deux côtés de la frontière.
Étienne Monin, envoyé spécial de France Inter au Canada. Autre territoire convoité par Donald Trump, le Groenland, territoire autonome danois. Eh bien, le nouveau Premier ministre du Groenland est ce week-end en visite site à Copenhague. « Nous devons nous soutenir », déclare le chef du gouvernement du Groenland, Jens Frederik Nielsen. La photo a fait hier le tour du monde en marge des funérailles du pape François. Donald Trump et Volodymyr Zelensky assis face à face, très proches l'un de l'autre. Une rencontre et une photo qui pourrait être historique si elle parvenait à faire bouger les lignes. Et d'ailleurs, 3 heures après cette rencontre informelle, le président américain s'est demandé sur son réseau social si Vladimir Poutine n'était pas en train de le balader. Eh bien, on va voir dans un instant comment réagissent les Ukrainiens à cette nouvelle séquence. Écoutez d'abord ce qu'en pense le géopolitologue Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po. Il n'est pas très convaincu d'un réel tournant dans ce conflit.
Je ne suis pas du tout sûr que, contrairement à ce que beaucoup ont reporté, cette rencontre soit aussi décisive, révolutionnaire et marque un changement ou un tournant dans les relations entre les États-Unis et l'Ukraine et l'Europe de manière générale. Soyons extrêmement prudents, c'est-à-dire je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait une sorte d'opération du Saint-Esprit qui ait fait de Trump quelqu'un qui est l'Esprit Saint, santé cette fois. Vous allez avoir des gens qui, eux, sont des vrais idéologues et qui ont vraiment, je pense, une forme de collusion idéologique profonde avec la Russie, pour des raisons qui sont liées à la détestation de la démocratie, de l'Europe, du droit international, y compris des gens comme Vance, qui effectivement vont mettre dans la tête de Trump quelque chose de complètement différent.
Le géopolitologue Nicolas Tenzer ce matin chez nos confrères de France Info. L'Ukraine dénonce une nouvelle série de tirs de drones russes, 149 drones lancés sur le pays la nuit dernière. Il y a au moins un mort, également 500 têtes de bétail tuées par une frappe sur un hangar. On est donc encore loin d'un cessez-le-feu et des promesses de négociations réaffirmées hier par Vladimir Poutine. Alors comment les Ukrainiens appréhendent-ils cette séquence? Reportage à Kiev de notre correspondant Stanislas Poyer.
À Kiev, les Ukrainiens accueillent avec prudence les premiers signes d'évolution dans le discours de Donald Trump. Si certains veulent croire à un tournant, la méfiance reste vive. Oleksandr Merejko, député et président de la Commission des affaires étrangères au Parlement ukrainien, voit dans ce changement de ton une lueur d'espoir.
C'était un signe très positif. Trump pourrait changer d'attitude vis-à-vis de toute cette situation. Son ton a changé. Il commence à comprendre que Poutine pourrait l'avoir manipulé.
Mais dans les rues de Kiev, la confiance reste fragile. Dans un parc de la capitale, Vania, étudiant de 22 ans, a cessé de suivre les déclarations du président américain.
J'essaye de prêter moins d'attention à ce que dit Trump et de me concentrer davantage sur notre situation en Ukraine, sur notre propre combat. On l'a déjà vu, ses déclarations sont souvent des revirements. Ce qu'il affirme aujourd'hui, il peut le contredire lui-même dès le lendemain.
Un sentiment partagé par Dasha, professeur de lycée à Kiev, qui ne croit plus aux bonnes intentions américaines.
Nous ne devrions pas investir 100% de notre confiance et de nos efforts envers les États-Unis. Nous devons continuer à le faire, bien sûr, mais je pense aussi que nous devons chercher d'autres partenaires.
La France, l'Allemagne et plus généralement l'Europe sont perçus comme de partenaires bien plus fiables. Mais à Kiev, on s'interroge, pourront-ils un jour remplacer l'aide militaire colossale fournie par les États-Unis? Stanislas Poyer, France Inter.
Et à Rome, depuis 7h ce matin, les catholiques, comme les touristes, peuvent venir communier ou visiter la basilique Sainte-Marie Majeure, là où le pape François a été inhumé hier, dans ce quartier populaire et cosmopolite à l'est de Rome. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Alors, envoyé, parmi les envoyés spéciaux à Rome, ce quartier est déjà touristique, il est donc en train de devenir un nouveau lieu de pèlerinage.
En effet, juste à côté de la gare, ce glacier a le sourire, il voit fondre son stock de glace.
Hier,
il y avait déjà tant de monde pour le pape, dit-il, beaucoup de fidèles. C'est sûr que pour le business, c'est bon. Ça va nous donner beaucoup de travail pour tous et pour toutes les activités. Sous le soleil de tous les âges, ils attendent tout autour de la basilique. À la sortie, Marina tient son fils Charles par la main.
Ça devient un lieu de pèlerinage où on vient voir notre pape en fait, d'une manière différente. Ça nous a d'ailleurs permis de découvrir ce lieu. On n'était encore jamais venu jusqu'ici, en fait. Et merci, François.
Elle explore le quartier avant de retourner à Rennes. Son mari, Vincent, lui, a failli rater la sépulture.
Moi, je suis passé devant sans la voir. Mon épouse qui m'a dit, il est enterré là, le pape François, mais c'est à son image. La discrétion, et en même temps, on est tous là pour lui.
Si discrète, cette tombe en marbre blanc dans un renfoncement entre deux chapelles, le cardinal du Salvador, Rosa Chavez, trouve ça tellement simple.
Incroyable. Tellement simple. Par terre, sacra,
et son nom. C'est tout.
Seule une rose blanche est posée sur sa tombe. Dehors, les policiers s'organisent. Le sas de sécurité va sans doute devenir permanent.
Maxence Lambrec, envoyé spécial à Rome avec les moyens techniques de Martin Troadec. L'explosion hier dans le plus grand port de commerce d'Iran a fait au moins 28 morts et plus d'un millier de blessés. Nouveau bilan du Croissant Rouge iranien. Le feu couve toujours sur le site et contrairement aux premières hypothèses, aucune cargaison militaire n'était entreposée. C'est ce que dit le ministère iranien de la Défense. Et à l'instant, la Russie a décidé d'envoyer plusieurs avions pour aider les Iraniens dans cette catastrophe. L'assassin est toujours en fuite, assassin présumé, 48 heures après le meurtre d'Abou Bakar, ce fidèle musulman tué de plusieurs dizaines de coups de couteau dans la mosquée de la Grand Combe, c'est dans le Gard. L'agresseur présumé donc est un homme d'une vingtaine d'années et dans la vidéo filmant son geste, il affirme qu'il n'en restera pas là. Propos inquiétants donc. Le recteur de la mosquée de Bordeaux, Tarek Obrou, y voit aussi une résonance avec certains discours politiques.
Ce que je constate, c'est qu'il y a une désinhibition et une banalisation de la violence en général qui touche toutes les strates de la société. Et s'ajoute à ça un certain discours qui pourrait indirectement inciter à cette désinhibition concernant l'immigration, théorie de remplacement, l'islam est associé au terrorisme, à l'intégrisme, etc. Donc effectivement, il faut faire attention à la parole, parce que la parole peut exciter, désexciter déjà. Donc quand on est un responsable religieux ou politique, il faut faire attention à ce qu'on dit. Les gens, ils ont peur de l'islam tout simplement. Ils ne sont pas forcément des islamophobes, mais on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc il faut faire preuve de pédagogie. Mais malheureusement, l'émotionnel l'emporte sur le rationnel et il faut prendre cette chose au sérieux. Ce sont des symptômes qui indiquent un malaise profond dans notre société.
Le recteur de la mosquée de Bordeaux, le recteur d'Alaès estime que toutes les pistes restent envisagées, dont la thèse d'un acte délibérément raciste et islamophobe. Prenons garde aux tics. Il n'est pas trop tôt dans la saison. Message du programme de recherche baptisé CITIC, un programme porté notamment par l'INRAE et l'ANSES qui nous invite donc à surveiller les morsures de tiques dès le début du printemps. Il y a un risque de contracter la maladie de Lyme. Le programme CITIC vient donc de publier ses dernières données et elle montre une moindre vigilance en début de saison de mars à mai. Rémi Brancato.
Dans ses locaux près de Nancy, le laboratoire qui abrite le programme CITIC a analysé plus de 2000 tiques rapportées par des habitants du Grand Est et celles qui ont piqué lors des promenades en mars et avril se révèlent davantage gorgées de sang que plus tard dans l'année. Elles ont passé plus de temps sans être repérées, explique Jonas Durand, ingénieur de recherche du programme CITIC.
De mars à mai, les tiques sont significativement retirées plus tardivement que après, au cours de l'été jusqu'à l'automne. Et ça nous indique que les gens font moins attention à ces moments-là.
Il appelle donc à renforcer la prévention dès le début du printemps en surveillant particulièrement les enfants, davantage piqués que les adultes, 2 à 3 fois plus que la moyenne nationale.
Quand ils sont tout petits, on va prendre le bain avec eux, on va bien vérifier. Mais aux alentours justement des 10 ans, ils commencent à se laver, se nettoyer tout seuls. C'est un moment où s'ils ne sont pas éduqués, ils ne vont pas forcément apprendre à rechercher des tiques. Or, plus une tique infectée reste longtemps, plus il y a de risques qu'elle transmette une infection.
Le programme a besoin de données pour ses recherches, les photos de tiques notamment, et fait donc appel aux internautes via son application et son site citic.fr.
Un tiers des agences et des opérateurs de l'État qui ne sont pas des universités seront fusionnés ou supprimés. C'est ce que promet ce matin la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin. Cela représentera 2 à 3 milliards d'économies. Ces fusions et suppressions devront encore être votées dans le cadre du budget 2026. Le sport avec la doyenne des classiques avant les grands tours cyclistes. La 111e édition de Liège-Bastogne-Liège, c'est dans les Ardennes belges, départ donné il y a 3 heures, un parcours accidenté et un duel entre le Slovène Tadej Pogacar, favori, et le Belge Remco Evenepoel. Bonjour François Ventejou.
Bonjour Eric.
Vous êtes à la fois sur la ligne de départ et la ligne d'arrivée en Belgique. C'est la première fois que les deux concureurs vont réellement s'affronter.
Oui, car il y a 2 ans, le duel avait tourné court avec une chute de Tadej Pogacar dans la première partie de course. À cette fois, ils sont bien là, tous les deux sur leur vélo, pour l'instant au chaud dans le peloton sous le soleil belge. Actuellement, il reste 127 km à parcourir. Un groupe de 12 coureurs ouvre la route avec le français, notamment Mathis Lebert de l'équipe Arkea BNB Hotel. Il compte environ 5 minutes 30 d'avance sur le peloton. Un peloton emmené par les équipes des deux favoris, UAE et Soudal Quickstep. Ils maintiennent l'écart avant les principales difficultés. La grande explication, elle pourrait avoir lieu dans la côte de la Redoute, à 34 km de l'arrivée. C'est 1 km 600 à plus de 9% de moyenne. C'est souvent la rampe de lancement idéale pour lever les bras à l'arrivée ici à Liège. Remco Evenepoel sera-t-il à la hauteur du champion du monde? C'est la question que tous les supporters belges se posent ici. Le Slovène est en quête d'un 9e monument pour dépasser son autre rival, Mathieu Van Der Poel, et égaler la légende italienne Fausto Coppi.
François Ventejou sur cette course Liège-Bastogne-Liège. Et chez les femmes, la course va se faire dans le sens inverse. Départ de Bastogne prévu donc dans un peu moins d'une demi-heure à 13h45 avec notamment celle qui a remporté le dernier Paris-Roubaix, Pauline Ferrand-Prévot. Le football avec les demi-finales retour de la Ligue des Champions version féminine. Chelsea-Barcelone, ce sera à 15h, suivi de Lyon Arsenal à 18h. Les Lyonnaises, à l'aller, s'étaient difficilement imposées 2-1. Christophe Vincent, vous êtes à Lyon et pour ce match, eh bien, rien n'est joué.
Longtemps dominées à l'aller, les Lyonnaises ont arraché une précieuse victoire qui leur a entrouvert les portes de la finale. Mais la seconde manche s'annonce très disputée, d'où la méfiance de la buteuse Kadidiani.
Finir à la maison, je pense que c'est toujours bien devant notre public. On sait que ce sera le dernier match à jouer pour se qualifier pour la finale. On sait qu'il n'y a qu'un seul but d'avance, donc tout peut se passer au match retour. Et le plus important, c'est de rester sur cette lancée-là, mais il ne faut pas se dire que c'est fait.
À l'Emirates, 40 000 spectateurs ont soutenu les Anglaises. Il y en aura 2 fois moins au Groupama Stadium. Le directeur général de l'OL féminin, Vincent Ponceau, le regrette.
Vous prenez Arsenal, les 40 000 personnes qui étaient dans le stade, vous avez 3/4 des supporters qui sont les supporters des garçons. Sur l'exemple des Anglais, il faut aussi qu'on ait le public des garçons qui soit un peu plus présent. Et à nous d'aller chercher ce public-là. Je trouve que cette équipe, elle mérite d'être soutenue. Moi, je trouve que ce sont des athlètes extraordinaires qui méritent qu'il y ait plus de monde qui les suive. Elles ont la performance, elles ont les titres, elles ont la reconnaissance à ce niveau-là. Ce qui leur manque, c'est l'amour du public.
Et pourtant, les Fenottes peuvent disputer leur 12e finale en 18 saisons, un nouveau record.
Christophe Vincent à Lyon. C'est l'un des cartons du moment sur Netflix, le documentaire intitulé « De rockstar à tueur, le cas Canta », avec dans ce film une parole qui marque particulièrement celle de la chanteuse Lio, amie de Marie Trintignant. Je rappelle que l'actrice a été assassinée par Bertrand Canta en 2003 dans une chambre d'hôtel de Vilnius. Bonjour Fanny Imbert.
Bonjour.
En dénonçant les violences du leader de Noir Désir, bien voilà Lio qui touche donc une jeune génération qui la redécouvre en icône féministe.
Au moment des faits, en 2003, le mot féminicide n'apparaît pas dans le paysage médiatique. C'est l'expression crime passionnel qui est alors utilisée, mais Lio s'y est toujours opposée, comme sur le plateau de Tout le monde en parle en 2006.
Dire que Marie était responsable de sa mort, que c'est la passion et l'amour qui l'ont tuée, non, l'amour n'apporte pas la mort. Marie est morte sous ses coups, dans un visage tuméfié. Il a laissé mourir dans son lit.
Pendant les jours qui ont suivi la mort de l'actrice, c'est la thèse de l'accident qui est principalement relayée, aidé par Bertrand Cantat, pendant que les proches du chanteur blâment la victime en invoquant son passé amoureux.
Et sur les réseaux sociaux, des internautes rappellent l'engagement de Lio depuis de nombreuses années contre les violences faites aux femmes.
Lio est la seule à s'être battue pour son amie Marie, publie Léa sur le réseau X. Comme beaucoup d'internautes, elle a redécouvert l'engagement de Lio à travers ce documentaire.
Moi, l'image que j'en avais, c'était qu'en effet, elle ne savait pas se contrôler. Et donc, de la revoir dans le documentaire, je me dis, c'était elle qui avait raison depuis le départ. Et je m'en veux maintenant.
Traitée de folle ou d'hystérique, ces prises de position ont eu un réel impact sur la carrière de la chanteuse, rappelle Anne-Sophie Yann, co-réalisatrice du documentaire.
Malheureusement, elle s'en est pris plein la figure pour avoir juste dit des faits. C'était une des seules voix à dire tout haut des vérités qui n'étaient pas du tout écoutées en réalité à l'époque.
Lio s'est donc marqué les générations, son tube Banana Split a traversé les époques, tout comme son engagement et ses combats.
Fanny Imbert, service culture de France Inter. Avant la météo, un chiffre, 97 816, c'est le nombre de fans qui ont assisté hier soir au concert du rappeur marseillais Jul au Stade de France.
Aïe, 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 un truc de fou.
La vérité, je suis trop content.
Près de 98 000 personnes donc à ce concert de Jul. Jamais un artiste n'avait rassemblé autant de monde dans cette enceinte, d'habitude surtout sportive. Le record de fréquentation appartenait jusqu'ici au groupe Indochine. Sous la musique de Jul maintenant, le temps.
La météo avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Eric.
Cet après-midi, ce sera le retour des éclaircies sur le sud-ouest.
Oui, ça fait du bien après cette matinée grise. Mais le long des Pyrénées, le ciel reste encore relativement chargé avec des averses fréquentes comme au sud du Massif central, au sud du Massif du Jura, des Préalpes à la Provence et jusqu'à la montagne Corse où elles seront orageuses. Ailleurs, c'est un ciel variable à nuageux qui vous attend ce dimanche.
Mais les températures remontent.
Oui, les maximales atteignent 20 degrés au nord comme au sud, 20 à Rouen comme à Tours, à Strasbourg et à Besançon. Et ça grimpe jusqu'à 22 au Mans, à Reims et à Paris, ce qui est assez confortable pour une fin avril, même si le long des Pyrénées et jusqu'au Pays Basque, l'ambiance est plus fraîche sous les averses, avec 17 degrés sur la plage des Basques à Biarritz. Météo France prévoit la poursuite de cette hausse des températures la semaine prochaine jusqu'au début du week-end du 1er mai.
Les prévisions de Magali Rochereau.